Qu'est-ce que l'innovation pédagogique? Doit-on réinventer la roue pour innover en pédagogie? C'est la question que je pose à Catherine Bellec, professeure de français au Cégep Gérald de Gaudin, qui a travaillé dans le cadre de ses recherches doctorales sur la question de l'innovation pédagogique. Surtout, ne nous sous-estimons pas, chers enseignants et conseillers technopédagogiques, nous sommes sûrement tous des pédagogues innovateurs cachés. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode Jason Pédagogie Numérique. Alors bonne écoute! Catherine, je suis enchantée de te rencontrer aujourd'hui. L'idée un peu, c'est de discuter d'innovation pédagogique. Je pense que c'est surtout le sujet de la rencontre aujourd'hui. Je pense que les auditeurs aussi aimeraient en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, puis comment tu as été amenée justement à explorer et je dirais même à creuser et approfondir ce sujet d'innovation pédagogique.
Je suis enseignante en littérature. En fait, j'ai étudié en littérature. Je suis arrivée au Cégep Gérald Godin où j'ai commencé à enseigner. Et pendant mes 10 premières années de carrière, je dirais que j'ai toujours été un peu en mode résolution de problèmes. Ben, comme beaucoup d'enseignants, je pense. Donc, on enseigne. Et là, on est face à un étudiant qui comprend pas, à une classe qui comprend pas, et on essaie de trouver des solutions. Et les solutions, elles se trouvent par toutes sortes de voies, par le numérique, mais parfois aussi par des nouvelles activités d'apprentissage, etc. Donc, je dirais que dans les premières années de ma carrière, j'ai été vraiment plus un peu dans l'instinct. Là, j'essayais des nouvelles choses, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que c'était de l'innovation pédagogique. Là. Quand j'essayais une nouvelle grille de cours, quand j'essayais une nouvelle activité, on était vraiment là-dedans. J'ai commencé à me rendre compte que c'était de l'innovation pédagogique autour de 2014 quand une conseillère pédagogique de mon collège a invité les membres du personnel qui étaient intéressés à faire de la recherche, à proposer des projets. Je me suis dit « Ah, ben ça serait peut-être intéressant ». Puis j'ai proposé quelque chose ça m'a permis de faire une petite recherche exploratoire et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré, en fait, d'avoir l'occasion de faire d'une manière peut-être un peu plus formelle ce que je faisais depuis des années plus instinctivement. Et après, à petite recherche exploratoire qui a duré à peu près un an, en 2015, je me suis inscrite au doctorat professionnel qui est offert à l'Université de Sherbrooke, dans le profil de l'époque, où on avait plusieurs profils à l'époque, dont un qui était l'innovation pédagogique. Donc, je me suis inscrite là-dedans. Et au doctorat professionnel, on doit mettre en place deux projets d'intervention. Donc, moi, j'en ai fait un premier qui était une recherche-développement où je travaillais sur la structure avec différentes disciplines. J'ai fait un deuxième projet qui était un projet d'ingénierie pédagogique avec l'Association québécoise de pédagogie collégiale où on a mis en place un prototype de formation à distance pour soutenir le développement professionnel des enseignants. Et là, je suis rendue à la finalisation là où on rédige un essai où on doit faire un petit peu émerger de toute cette expérience-là que j'ai eue sur le terrain, donc des savoirs professionnels, un peu finalement des perspectives sur l'innovation pédagogique dans mon cas, là, c'est ce que j'essaye de faire ressortir. Au-delà des démarches, là, des méthodologies de projet, là, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire de l'innovation pédagogique? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a plus de retombées dans les milieux? Donc c'est un petit peu ça, là, je dirais, mon background, si vous me permettez l'anglicisme.
C'est intéressant parce que je comprends que tu pars d'un parcours en enseignement du français à un questionnement et tout un processus de questionnement sur l'innovation pédagogique et ensuite à une exploration de par ton doctorat. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui cette exploration elle a mis de l'avant, je dirais, des choses que tu faisais sans vraiment mettre de théorie dessus. Est-ce que, en soi, tu innovais déjà sans le savoir avant tes explorations
oui,
en tant qu'enseignant?
Clairement. En fait, je pense que ça a mis en lumière que j'innovais déjà. C'est qu'à un moment donné, quand on travaille l'innovation pédagogique aussi, il y a comme des idées qui se déconstruisent. Donc, moi, quand j'ai commencé là-dedans au doctorat professionnel, pour moi, c'était, bon, l'innovation pédagogique, c'était de créer quelque chose d'inédit, de nouveau. Et là, à un moment donné, à force de lire, de travailler là-dedans, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qu'on fait quand on fait l'innovation pédagogique. Quand on fait l'innovation pédagogique, c'est, on adapte des choses qui existent déjà par ailleurs, mais donc on les adapte à nos besoins, à notre contexte d'enseignement. Et nous aussi, on s'adapte. On va changer certaines... C'est très rare qu'on va amener une nouvelle chose dans le cours et qu'on change rien du tout par ailleurs. Donc, il y a comme une sorte de co-adaptation de cet objet pédagogique qui peut être très, très circonscrit souvent on le voit là quand on parle d'innovation pédagogique, on a en tête des grosses réformes là où on va amener des carrément des nouveaux programmes ou des nouveaux systèmes d'enseignement. C'est vrai qu'on peut avoir des objets pédagogiques qui sont de l'ordre d'un système complet, mais on a aussi des choses très micro qui sont aussi de l'innovation pédagogique. Là. Moi qui change ma grille de correction pour l'adapter en fonction de mes besoins, des réalités, de certaines connaissances que j'ai acquises ailleurs, c'est de l'innovation pédagogique à un niveau plus modeste, mais quand même. Donc oui, je me rends compte que j'en faisais. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a peut-être des choses, à force de travailler là-dessus, c'est sûr aussi qu'on se rend compte des fois que j'aurais peut-être dû faire ça et ça aurait encore mieux marché. Donc, quand on travaille le tout, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà. En même temps, c'est sûr qu'en prenant le temps de réfléchir sur une expérience, puis de regarder aussi dans faire une revue de littérature sur les sujets, puis tout ça, à un moment donné, on se rend compte que, OK, c'est peut-être pour ça que ça a pas bien marché, cette petite expérimentation-là que j'ai fait il y a 15 ans. Là. OK, donc, ça donne des perspectives.
Dans ta définition, parce qu'en fait, en soi, c'est ça, t'as comme donné une définition de l'innovation, c'est sûr que il y a cette perception de l'innovation comme quelque chose qu'on crée, quelque chose qui est grand, quelque chose, quand on parle notamment d'innovation pédagogique, on parle de révolution, mais dans ta définition, tu sais, il y a deux termes qui m'interpellent, c'est adaptation et réappropriation. On ne recrée pas la roue, mais on va apporter des améliorations qui vont permettre d'adapter en fait notre cours à cet objet qui existait déjà. Et je rebondis sur le terme objet parce que tu parlais d'objet pédagogique. Qu'est-ce qu'un objet pédagogique?
Un objet pédagogique, c'est un moyen, un procédé, un dispositif ou un système. Donc, ça peut être plus ou moins vaste, qui va soutenir l'enseignement-apprentissage.
OK.
Au bout du compte, c'est ça. Et l'objet pédagogique...
Des exemples? Parce que tu parlais de grille d'évaluation. Est-ce que, justement, réadapter sa grille d'évaluation, c'est un objet pédagogique? On n'est pas nécessairement obligé de rentrer dans le numérique. Est-ce que tout changement pédagogique ou petite fluctuation est un objet pédagogique dans notre enseignement?
Ben, j'ai le goût de dire que c'est peut-être pas non plus... c'est difficile à quantifier. Je dirais que, en fait, l'innovation pédagogique, c'est quand le milieu, donc ça peut être un individu dans ce cas-ci, quand un individu ou un plus gros milieu, quand on amène un nouvel objet pédagogique dans ce milieu-là et qu'il est perçu comme nouveau, comme impliquant de l'adaptation, on est dans l'innovation pédagogique, selon moi. Donc, c'est certain que si quelqu'un fait déjà de la classe inversée et puis que là, il met en place une nouvelle activité de classe inversée, mais que pour lui, en fait, ce n'est pas vraiment nouveau, c'est comme une sorte de fluctuation dans quelque chose qui, pour lui, est familier. Là, on n'est pas dans l'innovation pédagogique. Donc, en fait, l'innovation pédagogique, c'est quelque chose qui est relatif. Ça dépend vraiment si le milieu qui met en place cet objet pédagogique-là perçoit celui-ci comme étant nouveau. À partir où le milieu perçoit ça comme nouveau, on est dans l'innovation pédagogique.
OK, d'accord. Mais figure-toi que je lisais ce matin, d'ailleurs, je me suis dit, ça tombe bien, je rencontre Catherine aujourd'hui. J'ai lu ce matin que l'Université du Québec en Outaouais ouvrait une formation au baccalauréat en innovation pédagogique. Et c'était pour pallier le manque d'enseignants de français au vu des nouvelles réformes qui vont avoir lieu dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'était intéressant de voir comme titre l'Université du Québec en Outaouais ouvre une nouvelle formation en innovation pédagogique. J'ai pas vraiment de veille sur toutes les formations qui vont dans ce sens dans le réseau, mais il semblait que c'était quelque chose d'assez récent. C'est un domaine qu'on n'explorait peut-être avant sans le savoir, mais qui commence justement à attirer l'attention sur comment on innove pédagogiquement. Et le lien qui a été fait, c'était surtout de dire innovation pédagogique, et cette formation sera surtout faite pour des étudiants qui vont être amenés à enseigner le français. Et c'est intéressant parce que là, l'entrée, c'était par l'innovation pédagogique, puis la discipline venait après. Je trouvais que c'était intéressant comment c'était annoncé, parce que ça m'a fait prendre conscience que l'innovation pédagogique, c'est quelque chose qui devrait entrer dans toutes les formations en pédagogie. Est-ce que c'est quelque chose où on a une entrée, en fait, d'une discipline innovation pédagogique où on se dit on va apprendre à innover? Et c'est ce qu'on voit, en fait, de par tes recherches, c'est que il y a un cadre à donner dans cet apprentissage de l'innovation. Qu'est-ce qui allait être proposé dans cette formation? Puis j'ai pas réussi à avoir cette image de formule magique.
Ben, je pourrais pas, moi, j'ai pas vu spécifiquement, mais ça me surprend pas vraiment qu'il y ait que les universités commencent à offrir des formations là-dessus. Moi, je peux dire que quand j'ai écrit mon essai, donc j'ai fait une revue de littérature sur l'innovation pédagogique, c'est certain qu'il y a des choses, bon, je veux dire, surprenantes, là, qui surviennent. Par exemple, l'innovation pédagogique, la Fédération des cégeps en parle depuis très longtemps. Dans un article, je disais, c'est comme le buzzword. Mm-hmm. Tout le monde en parle. C'est le mot qui est sur toutes les lèvres. Et là, ce qui devient drôle, c'est qu'après ça, on se dit, bon, ben si c'est partout, si tout le monde en parle, il doit avoir des référentiels de compétences, il doit avoir des définitions claires et établies de ce que c'est que l'innovation pédagogique. Et ben pas tant. Pas vraiment, vraiment pas tant. En fait, j'ai pas réussi à trouver un référentiel de l'innovation pédagogique pour même dans les c'est très étrange parce qu'en fait quand on commence à regarder les référentiels des professionnels qui œuvrent en pédagogie au milieu collégial, donc que ce soit le corps professoral, les conseillers pédagogiques, il y a pas de référentiel forcément qui est adopté par tout le monde, mais il y a eu des référentiels qui ont été proposés du moins, et il y a vraiment des traces qui sont liées à l'innovation pédagogique. Donc dès que qu'on tombe dans le fait que l'enseignant doit s'engager à essayer des nouvelles méthodes, à trouver des nouvelles façons de résoudre les problèmes pédagogiques. C'est à peu près dans tous les référentiels qui ont été proposés, ces éléments-là, et on est vraiment dans l'innovation pédagogique. Mais on dit pas vraiment comment. C'est bien beau, oui, il faut résoudre les problèmes, mais on fait ça comment? Que ça, c'est pas tant que ça présenté. Il y a beaucoup de méthodologies qui sont liées à l'innovation pédagogique qui existent. Quand on regardait les étapes, là, si on se dit que le but de l'innovation pédagogique, c'est de résoudre des problèmes, bien, on retrouve des recherches, là, des types de recherches qui sont vraiment là-dedans, que ça soit la recherche-action, la recherche-développement aussi. Il y a des méthodologies plus professionnelles, comme l'ingénierie pédagogique ou même le SOTL, qui vont dans le sens de, on essaye de résoudre des problèmes, on essaye de créer quelque chose, d'essayer quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, c'est des étapes. Bon, tu sais, finalement, au bout du compte, on analyse, on essaye d'analyser le problème, d'élaborer une solution, on la met à l'essai, on l'évalue. C'est peut-être formulé différemment, mais ça revient toujours à ça. Mais en même temps, moi, ce que j'ai pu observer en revenant sur mon expérience et en regardant la littérature, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'autres choses qui étaient nécessaires. Il y avait en fait pratiquement des profils de compétences différents qui étaient nécessaires pour faire de l'innovation pédagogique.
Tu parlais d'agent, du rôle et compétences de l'agent innovateur efficace la dernière fois, justement, quand on regardait ensemble l'infographie. Est-ce que c'est ce type de posture, en fait? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue sur mon expérience, puis j'ai un peu catégorisé tout ce qui avait été mis en place et qui avait donné des résultats intéressants. Puis bon, j'ai fait une catégorisation et ça a comme fait un peu émerger ce que je dirais. Je me suis aussi basée sur les choses que j'ai pas bien faites et qui ont pas fonctionné. Et donc, ça m'a donné un peu une sorte de profil de compétences de ce que serait l'agent innovateur, justement, là, efficace. Donc, l'individu qui voudrait avoir le plus de chances qu'il y ait des belles retombées dans son milieu lorsqu'il innove. Il y avait comme 4 profils de compétences qui étaient nécessaires d'avoir pour un agent innovateur. Je dirais qu'on pourrait presque le figurer comme 4 individus différents. OK? Donc, si on imagine les 4 profils de compétences.
J'allais justement parler, de personnage, c'est ça?
Tout à fait. Fait que, on pourrait avoir donc le premier personnage qui est en fait un profil de compétence mais qui est nécessaire pour l'innovation pédagogique, c'est le leader un peu. On a la figure du leader, l'individu qui va avoir beaucoup d'audace, qui va avoir une approche très stratégique, qui va être assez compétent au niveau relationnel pour aller trouver des ressources. Ça peut être c'est sûr que des fois ça peut être des toutes petites ressources, dans d'autres cas ça peut être plus important. Quand on parle de ressources, c'est pas seulement les ressources matérielles, c'est les ressources humaines, être capable de convaincre les gens d'embarquer dans l'innovation, de l'essayer. Et là ça peut aussi impliquer un enseignant qui expérimente dans sa classe d'être capable d'embarquer ses étudiants à essayer l'innovation puis à entrer là-dedans. Donc, cette capacité à trouver les ressources, à conduire la démarche en collaborant avec le milieu plutôt qu'en lui imposant pour avoir un peu plus son adhésion, à réguler le projet, à le planifier. Donc, cet individu-là, on a vraiment un profil là, un peu du leader. C'est lui qui fait en sorte qu'au lieu d'être dans l'état de projet, l'innovation devient action, finalement. Par ailleurs, on a un profil, je dirais, on pourrait dire le sage ou le chercheur. Là, je le visualise avec des lunettes, mm-hmm. là, c'est un gros stéréotype. Mais, mais donc, c'est lui qui va essayer de s'approprier le système là où on essaye d'amener l'innovation pédagogique. Et donc, oui, évidemment, comprendre les règles, les normes, etc., mais surtout, regarder les acteurs, leur représentation, comment ils perçoivent les défis, pour vraiment être capable de faire des choix judicieux. Parce que c'est quelqu'un qui connaît pas bien un contexte pourra pas faire des choix judicieux sur qu'est-ce qu'on doit adapter, qu'est-ce qu'on doit pas adapter. Donc, lui, au contraire du leader qui a plus une posture stratégique, c'est quelqu'un qui a une posture plus, je dirais, rationnelle, critique, et qui est un peu en distance et qui observe pour collecter des données et les interpréter pour créer un sens à ce système-là où on essaie d'amener l'innovation.
Donc, ce serait un observateur, mais plus macro, c'est-à-dire qu'il y aurait comme l'image globale, parce que tu parles de système, donc il y a même de voir comment ça fonctionne, tout ce système avec les différents intervenants, les collaborations.
C'est ça. Des fois, le système, on a l'impression peut-être de le percevoir moins quand on est un prof dans notre classe, mais il est quand même là. Il y a quand même des collègues, les autres, les règles départementales, il y a en tout cas, il y a toujours un système, même parfois. Si parfois, on le voit pas toujours, là, et ça peut vraiment être très, très payant de prendre le temps de le décortiquer.
Mais Catherine, le sage, ça peut être un enseignant? Quand on parle d'un persona comme ça qui a un peu, qui a une vision, tu sais, comme une vision de jeu, la globale de tout ce qui se passe, j'ai un peu l'impression qu'on peut pas être enseignant puis avoir en fait toute cette image-là. J'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui est plus coordonnateur dans la gestionnaire ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'un enseignant peut être sage?
Bien sûr. Je pense que l'enseignant, en fait, vu qu'il est sur le terrain, c'est peut-être lui qui a le plus d'informations. Là où c'est plus difficile, c'est d'être capable de se mettre en retrait pour observer les choses. Mm-hmm. Il y a des mécanismes pour ça qu'on peut mettre en place. Tu sais, il y a des grilles qui existent, tout ça. Quelqu'un qui prend la peine de s'asseoir puis de réfléchir, à la limite, ça peut être avec quelqu'un d'autre qui lui pose des questions. Des fois, c'est fascinant, juste les questions que quelqu'un d'autre nous pose, ça fait émerger des choses qu'on savait, mais qu'on n'avait comme pas explicité. Donc, tout à fait, l'enseignant peut être le sage, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais j'ai le goût de dire, plus l'agent innovateur comprend bien le système, plus ça va être facile. Donc, c'est certain que, tu sais, moi, je suis enseignante au collégial, par mon expérience. Je dis pas que je serais pas capable de faire de l'innovation pédagogique dans un autre cadre, mais ça serait plus difficile. Mais par exemple, quand j'ai fait de l'innovation pédagogique avec des profs de maths, d'administration, ben là, il y avait vraiment un grand intérêt à écouter leur vision des choses parce que j'avais en tête une partie du système parce que je connaissais bien le milieu collégial et en même temps beaucoup de questions parce que je connaissais pas leur discipline. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Là, des fois, même avec d'autres collègues qui sont pas de la même discipline, on peut réussir à faire émerger des choses qui, pour nous, on les voit pas. Et en discutant, en se comparant, ça fait émerger des choses plus clairement. Donc, il y aurait le sage, il y aurait le leader. Il y aurait par rapport, j'ai une autre image de personnalité, le créateur ou le geek ou celui qui est un peu flyé, qui
ça c'est stéréotypé aussi. Moi, je suis pas geek, je crée.
Je suis en plein dans les stéréotypes aujourd'hui.
Mais comme ça, on met une image, on a l'image. Il y a pas de souci. Donc le créateur.
C'est ça. Donc le créateur qui lui va, c'est lui qui doit avoir beaucoup de connaissances en pédagogie notamment, selon moi. C'est utile dans toutes les postures, mais c'est certain que lui, c'est nécessaire parce qu'il doit avoir en tête une sorte de grand répertoire de plein d'objets pédagogiques existants pour être capable, lorsque le sage lui communique une analyse d'une situation, tout ça, qu'il soit capable un peu de dire, OK, dans cette situation-là, on pourrait peut-être essayer ça, on pourrait peut-être faire une combinaison.
Il est dans l'idéation, en fait. Il arrive à... Il reprend, en fait, les informations du sage et tout de suite, il est amené, du par sa connaissance et son expertise en pédagogie, trouver des alternatives d'accord.
Ben, c'est l'idéation et c'est l'élaboration de la solution aussi. Okay. Donc là, ça va être quelqu'un qui va mettre en place un prototype, qui va donner des idées pour opérationnaliser cette idée-là aussi. Lui aussi, il a une posture, je dirais, peut-être plus rationnelle et critique parce qu'il faut qu'il soit capable quand même de regarder l'objet pédagogique qu'il est en train d'adapter pour regarder, ben, ça va-tu marcher avec les besoins? Est-ce que là, je m'égare parce que ça marchait dans ce contexte-là? Mais dans ce contexte-là, si je regarde les besoins, c'est clair que ça fonctionnera pas. Donc, il y a l'aspect créatif, mais en même temps, en étant rigoureux. quand même assez critique, qui est important. Et lui, il se concentre vraiment sur l'objet pédagogique à concevoir. Et finalement, je dirais que la dernière figure qui vient compléter ce portrait, là, peut-être des profils de compétences de l'agent innovateur, ça serait l'individu qui va venir soutenir la création de sens. Ça, c'est peut-être un peu moins... Vous voyez, moi, quand j'ai fait ma revue littérature, je vous dirais que, bon, le leader, le sage et le créateur, on retrouve ça. Le soutien à la création de sens, on le voit un peu moins, mais je pense, honnêtement, par mon expérience, que c'est au-delà du but de l'innovation pédagogique qui est de trouver une solution à un problème. L'intention de l'innovation pédagogique, quelque chose d'un peu plus vague, mais qui est ce qui nous amène vraiment, en fait, souvent à agir, c'est que je crois qu'on essaye de redonner, de donner ou de redonner un sens à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, un individu, il y a plein d'individus qui sont confrontés à des problèmes, qui vont pas pour autant se mettre en mode résolution de problèmes. Bien souvent, quand quelqu'un décide de faire de l'innovation pédagogique, c'est parce qu'il a, par exemple, un besoin d'agir, de ne pas être impuissant, parce que la situation où il est lui semble plus avoir de sens. Tu sais, lui, il essaie d'aider les élèves et ça marche pas. Donc, il y a toutes sortes de motivations qui sont très subjectives, très personnelles, qui vont faire en sorte qu'on commence à faire de l'innovation pédagogique. Donc, quand, si on se met en tête que l'innovation pédagogique, son intention, c'est de créer du sens, on a besoin d'un profil de compétences là-dedans d'individus qui vont soutenir la création de sens pour les individus qui font cette innovation pédagogique-là. Pourquoi c'est important? Ben, premièrement, on entend beaucoup parler, là, justement, là, des méthodes efficaces, tu sais, les données probantes sur les méthodes efficaces et tout ça. Et je pense que ce qui est des fois oublié là quand on regarde ces méthodes pédagogiques efficaces, c'est que l'efficacité en apprentissage est vraiment influencée par le fait qu'une méthode va concorder avec la représentation que les gens ont de l'apprentissage. Donc, quelqu'un qui met en œuvre une méthode pédagogique, même s'il le fait très bien là selon les règles de l'art, si lui-même ne croit pas à cette méthode, s'il n'a pas l'impression que ça vient en cohérence avec comment il voit l'enseignement et l'apprentissage, et ça s'applique aussi aux élèves. T'sais, si un élève est confronté à une activité d'apprentissage qui ne cadre pas avec sa vision de ce que c'est apprendre, la méthode va être moins efficace. Et en plus, je finirai en disant que si on se dit que l'innovation pédagogique, le but, c'est de résoudre un problème, faut pas oublier qu'on n'est jamais certain que ça va marcher. On peut essayer de mettre en place quelque chose et que ça marche pas, c'est possible. Donc, le fait de penser à l'innovation pédagogique comme un moyen de redonner du sens à l'enseignement-apprentissage, ça fait en sorte que, indépendamment de ce qui va découler de ça, résolution de problème ou non, on est peut-être capable de donner quelque chose à l'individu qui a essayé d'innover. Il va avoir appris à travers ça des choses sur lui. Parce que innover, c'est faire un changement. Puis quand on change, c'est là qu'on se rend compte parfois qu'on débarque du pilote automatique puis qu'on apprend des choses sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut, sur nos objectifs. Et donc, il y a toujours quelque chose à gagner en faisant de l'innovation pédagogique si on arrive à créer du sens à partir de cette expérience-là. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui nous aide à réfléchir, à objectiver un petit peu l'expérience qu'on a vécue. Donc, c'est sûr que si on regarde un peu les stéréotypes que je disais, c'est pas tout à fait un stéréotype, mais disons, dans ce cas-ci, ça pourrait très bien concorder avec la figure du conseiller pédagogique. C'est l'individu qui est un peu en accompagnement, qui va soutenir l'individu, le supporter affectivement, parce que c'est pas facile de faire des changements, c'est déstabilisant, qui va aussi l'aider justement à peut-être alimenter ses réflexions, pour l'aider à créer du sens à partir de cette expérience de changement que les gens essayent de vivre. Donc, je dirais que ça fait comme un portrait. On a comme le leader, le sage, le créateur et l'accompagnateur.
Alors, ma première question, elle est beaucoup autour du leader, le sage, le créateur, l'accompagnateur de sens, là, le conseiller pédagogique. Je comprends que chaque persona, là, est en fait un innovateur en soi. C'est possible d'avoir les quatre, peut-être d'avoir des personnes qui justement sont à même d'être leaders, qui ont cette vision macro sur le système, qui ont cette aptitude justement à rentrer dans des phases d'idéation, de prototypage, et aussi qui peuvent conseiller d'autres parce qu'ils ont déjà fait une réflexion eux-mêmes, puis tu as déjà eu des observations de ce type. Des super innovateurs, là, des super agents.
Ben, en fait, c'est qu'il faut garder en tête que l'innovation pédagogique, ça a quand même, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça dépend à quel point, premièrement, l'objet pédagogique ou le milieu éducatif visé est vaste ou plutôt circonscrit. Ça dépend à quel point les adaptations de l'objet pédagogique ou du milieu sont mineures ou majeures. Donc, je dirais que c'est tout à fait... En fait, je pense que tout le monde porte en soi un petit peu ces quatre compétences-là, mais parfois avec plus ou moins, peut-être, dans certains domaines. Mais selon la forme de l'innovation pédagogique, il y a comme des profils de compétences qui vont être plus interpellés que d'autres. Donc, c'est sûr que si on fait une toute petite adaptation à un objet pédagogique, peut-être que l'aspect créateur est pas obligé d'être trop, très, très, très développé. Alors, versus quelqu'un qui vraiment essaie de concevoir tout un nouveau système là où là la créativité va être plus importante. Si on amène une modification du milieu qui est plus mineure, si on c'est une petite adaptation pour le milieu qui va quand même dans le sens de ce qui est déjà en place, ben le soutien à la création de sens est peut-être moins interpellé. Selon la forme que ça prend, on n'a pas forcément besoin de déplacer, d'avoir des super compétences dans ces quatre domaines-là. Mais en même temps, je pense que c'est pertinent de comprendre que ces quatre éléments-là, ces quatre profils de compétences-là peuvent jouer un rôle pour aussi regarder, parce que ça se peut parfois qu'on ait une entreprise en tête et qu'on n'arrive pas à la mettre en œuvre comme enseignant ou tout ça. Puis peut-être que de justement avoir ce cadre-là, puis de se dire, OK, ouais, moi, je suis pas si douée que ça pour tel aspect, ben allez vous chercher quelqu'un qui vous aide là-dedans, tu sais, donc pour regarder aussi là, parce qu'un professeur peut très bien collaborer là pour des innovations pédagogiques là, il peut demander à son coordonnateur pour trouver des ressources peut-être, il peut aller voir un CP pour avoir un petit peu de soutien si pour lui c'est difficile à ce niveau-là. Donc mais oui, je pense qu'à certaines, dans une certaine mesure, tout le monde est capable de déployer un peu ça. Puis après ça, c'est de regarder si on veut aller plus loin et qu'on a besoin de quelque chose qu'on maîtrise pas encore complètement, ben aller chercher quelqu'un qui peut nous aider là-dedans.
Donc, d'accord. Donc, je comprends que ces personas-là peuvent aussi aider dans une approche où, en termes de, je dirais, fiches actionnables. Tu sais, imaginons, je suis un établissement, secteur en fait collégial. Tu sais, j'ai vraiment de la misère, moi, en tant que gestionnaire, à me dire, mais comment on va faire pour... Au vu de ce qui s'est passé, de la pandémie, de l'enseignement à distance, des nœuds qui sont resserrés pendant cette phase-là, puis certains qui sont défaits aussi. On a fait un saut vraiment dans l'appropriation, en tout cas, du numérique. Puis on s'est posé beaucoup de questions sur les évaluations. On a buté aussi sur des étudiants qui ne pouvaient pas supporter des 2 ou 3 heures d'affilée en cours à distance. On s'est dit, il y a un problème dans la manière dont on enseigne. Pour quelqu'un, un gestionnaire qui se pose ces questions et qui se dit, mais comment je vais faire? Est-ce que tu le vois, justement, du fait de ces personas avoir des... comme une feuille actionnable où il va se dire, OK, ben, j'ai besoin de quelqu'un un peu qui correspond au leader, au sage, au créateur, à l'accompagnateur de sens, au conseiller pédagogique. Puis l'innovation viendrait aussi de la synergie entre ces quatre personnalités.
Ben je pense que on peut le voir de deux façons. On peut le voir comme un individu qui a ces quatre compétences-là potentiellement, et effectivement, on pourrait le voir comme quatre collaborateurs là qui seraient capables de travailler ensemble. J'ai le goût de dire aussi que moi, personnellement, ce que m'a appris mon expérience de l'innovation pédagogique, c'est que la plus grande erreur que peut faire un innovateur pédagogique, un agent innovateur, c'est de ne pas être dans une posture de collaboration. C'est vraiment, vraiment moins riche d'être tout seul dans sa tête, j'ai le goût de dire, là, puis d'essayer de mettre des choses en place. Donc, c'est certain que si les institutions veulent utiliser l'innovation pédagogique pour résoudre des problèmes dans les milieux, ils ont tout à gagner à mettre en place pas seulement un individu qui est tout seul, mais une équipe. Ça change plein de choses dans les dynamiques aussi là, de relations avec les milieux, quand on a une équipe qui travaille sur quelque chose versus quand t'as un individu. C'est plus facile, à mon avis, pour une équipe d'entrer en relation avec un milieu que pour un individu tout seul. Donc, oui, ça pourrait tout à fait être envisagé de mettre en place une équipe qui soutiendrait l'innovation pédagogique avec différentes compétences.
Mais quand tu dis équipe, là, moi, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que il y a souvent, et notamment de nos jours, des équipes hein, en innovation qui sont mises en place, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent pas. Il y a équipe, bien sûr, mais il y a aussi équipe dans la transversalité, mais tu sais aussi l'équipe en fait qui fait partie du département, des coordonnateurs et tout, mais l'équipe aussi où on inclut l'enseignant, non? Parce que ce qui vient souvent, c'est que des fois il y a cette frustration quand on n'implique pas les enseignants qui sont experts eux-mêmes sur le terrain du contenu, de ce qui se passe, des dynamiques en classe, etc. Reçoivent souvent des innovations qui sont un peu déjà faites, qui sont pensées un peu plus de manière en amont. Il y a des gens comme ça dans l'établissement qui ont pensé à des choses qu'on devrait faire. Puis généralement, il y a un blocage dans l'adaptation de ces décisions dans le contexte d'enseignement. Et généralement, c'est ce qui bloque. Est-ce qu'il faut être sûr, quand tu parles de collaboration, de collaborer avec les différentes parties en incluant même des étudiants? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose d'idéal dans l'innovation pédagogique?
Oui. Je pense en fait que c'est pas... En fait, quand on comprend l'innovation pédagogique, il y a toujours aussi une sorte de petit flou, parce que une innovation pédagogique, ça peut être un objet, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je pense pas que l'innovation pédagogique est un objet, je pense que c'est un processus. Okay. Alors, l'agent innovateur, lui, son but n'est pas de créer un objet. Ça, à la limite, c'est peut-être plus le rôle de la petite partie du créateur là sur laquelle... Mm-hmm. L'innovation pédagogique, c'est vraiment beaucoup plus, je dirais, une expertise de processus. Donc, à ce moment-là, on peut avoir quelqu'un qui va avoir un regard extérieur, qui va mettre en place des ressources, qui va conduire la démarche, mais c'est certain qu'on a besoin des enseignants, parce que ce sont des gens, en fait, on a besoin des gens sur le terrain. Des gens sur le terrain, il y a les enseignants, mais il y a aussi les élèves. Parce que des fois, les professeurs imaginent des super belles choses, mais là, les étudiants, ben, ils les reçoivent pas comme ça, mais il y a des choses que l'enseignant sait pas sur la vie des élèves, sur, on le sait, là, les profs se parlent pas tous. Des fois, il y a quelque chose qu'on met en place, puis ça va en contradiction avec d'autres choses. Donc, c'est certain que d'avoir le point de vue des étudiants, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, important, pour qu'on fasse les adaptations nécessaires, qu'on donne du sens à ce qu'on met en place pour eux aussi. Il faut être en collaboration, il faut avoir en tête que tout le processus d'adaptation du milieu, l'objet pédagogique qu'on n'adapterait pas, j'ai le goût de dire que c'est à peu près certain que ça marchera pas. Oui. Ok, il faut toujours une adaptation à tous les contextes, ça peut être mineur, ça peut être majeur, mais donc oui, c'est certain qu'il faut que les enseignants soient des collaborateurs, mais l'enseignant a aussi avantage à prendre les étudiants comme des collaborateurs. Oui. Il pourrait avoir des bonnes surprises d'ailleurs, parce que moi, mon expérience, c'est que les étudiants, on utilise souvent l'innovation pédagogique pour eux, mais finalement, en quelque part, des fois, ils deviennent un peu... C'est presque des études qu'on fait sur eux. Je sais pas si on voit la nuance, là. Donc, on fait ça pour eux, mais à un moment donné, eux, ils deviennent très... Bon, le mot victime est trop fort, mais ils deviennent un peu... on leur impose quelque
Objet
chose.
Objet de l'étude.
Objet de l'étude, tout à fait. Et honnêtement, je pense que les étudiants, quand on leur propose quelque chose et qu'on leur demande leur opinion et qu'on leur explique pourquoi on fait les choses et qu'on veut les aider, et pas seulement au terme de l'expérimentation, mais durant celle-ci, pour justement adapter les choses si ça marche pas, parce que là... Des fois, on essaye des choses, on leur demande à la fin de la session si ça a été bien, puis là, ben peut-être que c'est pas le cas. Puis bon, on se dit ça va nourrir les prochaines expérimentations avec d'autres élèves, mais pour eux, c'est un peu perdu parce qu'il est trop tard, là. Donc, c'est certain que durant le processus d'innovation pédagogique, je pense que ça peut être très payant d'avoir une rétroaction des élèves. Ça peut être pas grand-chose, mais au moins de voir leur point de vue.
D'accord. Mais oui, c'est ça, la rétroaction des élèves, de poser des questions, est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça a fonctionné, des petites évaluations comme ça, pour avoir leur retour, c'est toujours important pour alimenter en fait cette innovation. Moi, il y a quelque chose dans l'innovation pédagogique qui me fait un peu peur, je vais t'expliquer. C'est j'ai à la base une formation en innovation pédagogique, et ce que si je fais la corrélation avec ce qui se passe beaucoup en innovation dans le milieu des entreprises et ce qui vient en ce moment, c'est le côté, et tu en parlais tout à l'heure, un peu solutionniste. Tu sais, le côté un peu, parce qu'on est dans la résolution de problèmes, donc forcément on, tu sais, ça va être comme une innovation, on va se dire, de par l'innovation pédagogique, on va réfléchir à comment résoudre ce problème, puis on se lance comme ça dans des résolutions de problèmes qui, oui, c'est ça, rappelle un peu ce processus solutionniste où il y a un problème, on veut le fixer, quelque chose de très automatique. Est-ce que tu perçois un peu le danger aussi de prendre, en fait, l'innovation pédagogique comme quelque chose qui va forcément tout de suite régler un problème? Et je te dirais, on en a toujours eu des problèmes en éducation, parce qu'on est dans une société qui est mouvante, qui évolue. Il y a toujours eu des innovations pédagogiques en soi. Là, quand on fait un peu l'étude de ce qui se passe en éducation, il y a toujours eu des changements. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va changer, ou il y a quelque chose qui va se déclencher, ou c'est le fait que de plus en plus, ça va généraliser? Puis l'enseignant lui-même va se dire, je suis enseignant, mais enseignant innovateur pédagogique.
De bonnes questions.
Ouais, tu vois, ça va trop vite.
Ben, en fait, je pense qu'il y a plein de choses là dans ce qui a été dit. C'est certain qu'il y a des problèmes, en fait. Comment dire? Je vais donner un exemple. Toute la question de l'inclusion en ce moment là, sur laquelle qu'on évoque beaucoup, les problèmes qui viennent avec cette volonté d'être davantage inclusif, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là il y a 30 ans, mais c'était pas perçu comme un problème. Donc, je pense que le monde évolue. Moi, je trouve, en tout cas, l'inclusion est un très bon exemple que le monde évolue pas si mal que ça, parce que c'est une belle chose, ça. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a des choses qui peuvent exister, mais qui sont pas perçues comme un problème. En ce moment, je pense qu'on perçoit de plus en plus qu'il y a des problèmes parce qu'on veut démocratiser davantage l'enseignement. C'est sûr que le collégial aussi, il y a comme une situation particulière, hein? On s'entend, c'est unique, là, le collégial. Tu sais, on est dans l'enseignement qui est en théorie pas obligatoire, mais en même temps, ben c'est tellement important comme étape, le collégial. Ça peut amener sur le marché du travail, mais ça peut préparer à l'université. Ça vient aussi avec la mission des cégeps, tu sais, d'amener à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui aient accès à une éducation supérieure de qualité. Donc, je pense qu'il y a ça. On perçoit davantage des problèmes, donc on veut tenter de les régler. Par ailleurs, c'est certain que de l'autre bord, j'ai le goût de dire qu'il y a peut-être encore, tu sais, quand on regarde les modèles de gestion, tu sais, on a des modèles de gestion où il y a une idée de performance. Elle est encore un peu présente, je pense, dans la façon d'observer les choses au ministère de l'Éducation notamment et tout ça. Mais je pense qu'on va éventuellement aller vers des modèles plus peut-être pluralistes, ou en tout cas des modèles où on va plus viser en fait à faire évoluer le système au lieu d'avoir juste des résultats. Et c'est là que l'innovation pédagogique, quand au-delà de la résolution du problème, ce qui devient intéressant, c'est quand on comprend que l'innovation pédagogique, c'est une façon de faire évoluer le système. Pas forcément parce qu'on enseigne mieux, mais parce que le système apprend de l'innovation. Les profs, les élèves, les CP, c'est sûr que plus un système apprend, plus il va se perfectionner, et plus là, c'est pas direct, là, c'est pas cause à effet comme on est dans un modèle performant, mais le système en retire quelque chose qui va l'amener à se développer. Puis c'est là l'intérêt de soutenir la création de sens des gens dans ces innovations pédagogiques-là. Au-delà du but de développer des compétences en résolution de problèmes, c'est gagnant dans un monde qui change toujours comme le nôtre. T'sais, c'est certain. Donc, je pense que c'est plus comme ça qu'on va tranquillement en venir vers ça. Faut juste être prudent, parce qu'effectivement, je pense que d'appliquer à l'apprentissage un modèle de gestion de la performance, et ça vient beaucoup quand on parle d'innovation pédagogique, là, il faut juste faire la part des choses. T'sais, si l'innovation pédagogique est quelque chose qui permet de mobiliser les gens, de faire apprendre aux institutions, de se développer, c'est intéressant, et faire quand même attention, tant mieux si on arrive à résoudre les problèmes. Mais de toute façon, honnêtement, c'est un peu difficile de proposer des trucs absolus, justement parce qu'on sait la diversité. On peut bien proposer une solution pour un groupe, mais c'est pas clair que pour un autre groupe, ça va être une solution. Donc, ça va toujours être un travail à faire.
Mais j'aime beaucoup ce que tu me dis. Tu viens de me faire je suis comme en train de faire un peu la paix parce que tu sais, des fois, tu t'en entends tellement parler, l'innovation, ça vient dans tous les sens, puis c'est utilisé justement de plus en plus. Tu sais, j'avais ce ressenti que c'était beaucoup en corrélation avec la gestion de la performance, mais tu sais, le terme là que tu as utilisé, d'évolution, tu sais, plus que d'évolution, de développement de compétences de résolution de problèmes, ça me fait un peu rappeler cette image de naviguer, savoir naviguer en eau trouble. Tu sais, vraiment développer des compétences parce qu'on t'est pas, hein, où est-ce qu'on s'en va. C'est vrai que la gestion de la performance, c'est qu'il y a peut-être un début, t'as une fin, et tu sais que t'as fini, en fait, tout le processus. C'est comme, je sais pas, tu cours un 250 mètres, tu sais qu'il y a un début, il y a une fin, t'es performant, etc. Mais on n'est pas dans cette situation actuellement. L'innovation pédagogique, c'est plutôt quelque chose qui va nous accompagner à comprendre le système pour mieux justement s'adapter au système. Et c'est quelque chose qui est continu et itératif. Et ça, j'aime beaucoup.
T'as parfaitement compris ma pensée. En tout cas, c'est exactement ça.
Alors, on arrive, oh, ça va trop vite. Moi, j'avais comme une question que je voulais vraiment te poser avant que tu nous en dises un peu plus sur quels sont tes prochains projets, puis où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut te lire, et puis on partagera sûrement des ressources sur le site Déductive. Mais quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute et tu sais, qui a vraiment la volonté de se dire, je vais peut-être avoir une approche où je vais essayer de m'organiser, puis avoir des étapes qui vont me permettre justement de pouvoir faire des actions d'innovation probantes dans mon enseignement, dans ma façon de gérer, de coordonner?
Je dirais qu'il y a deux choses peut-être. La première chose, c'est de mettre au clair ce qu'on veut. Et là, au-delà de résoudre le problème, je dirais, c'est quoi les autres motivations? Parce que souvent, il y a d'autres motivations. Comme je disais, on veut résoudre un problème, mais il y a souvent des... En fait, je dirais que les gens qui décident d'entrer dans l'innovation pédagogique, souvent, ils le font en ayant déjà en tête un peu un angle. Tu sais, ils ont déjà... Souvent, en fait, c'est pas vraiment le problème qui déclenche tant que ça l'entrée dans l'action. C'est plus l'idée. Ils ont eu une idée pour résoudre le problème. Elle n'est pas toujours claire, mais elle est là. Donc, je dirais que la première chose, c'est de faire une sorte de vrai bilan réflexif, de se dire, bon, pourquoi ce problème-là me dérange? Pourquoi cette idée-là qui m'a accrochée m'interpelle? Parce que ça, c'est les bases pour faire émerger ce qui donne du sens à l'innovation pédagogique pour nous. Donc, il y a le but, là, évidemment. Ça, absolument, c'est assez clair pour les gens quand ils commencent ça. Mais c'est important, d'une part, pour avoir un regard critique sur ce qu'on fait, pour mieux évaluer par la suite si ça tient la route avec nos intentions, par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est comme vraiment un petit pas de recul qui est super important à faire si on veut bien faire les choses.
Puis là, on peut se faire aider, là. On peut se faire aider dans les personas.
C'est clair qu'on peut aller voir un conseiller pédagogique, là. Ça peut, c'est des personnes qui sont dédiées à ça, en fait, là. Donc, ça peut être intéressant. On peut aussi, ça peut se faire en parlant avec un collègue aussi. Ça peut être très riche, les discussions avec un collègue. Mais en fait, je dirais qu'il faut quelqu'un qui va nous poser beaucoup de pourquoi. Que ça soit un ami un peu qui va nous challenger ou un CP. Je pense que c'est important de faire ça. De toute façon, les CP, c'est aussi beaucoup des gens qui ont souvent une expertise de processus. Donc, eux vont pouvoir donner des ressources très souvent, là, sur des méthodes pour justement mener des processus d'innovation. Donc ça serait le premier pas là à faire. Et sinon, ben en fait, pour arriver à passer de l'idée à l'action, ben on a besoin du leader. Fait que là, c'est de se demander, ok, comment je vais la mettre en œuvre cette action-là? J'ai besoin de qui? J'ai besoin de quelles ressources? Et avec ça déjà, on va mettre la table pour, je vais te chercher de l'aide. Quelle aide? Je suis-tu capable de mettre ça en œuvre moi-même. Donc, je dirais que c'est comme par ça que ça commence. Puis après, ben là, les autres rôles qu'on pourra mettre en place vont se mettre presque tout seul en place, j'ai le goût de dire, bien souvent.
Super, merci. Et on arrive déjà à la fin de notre rencontre. Ça va trop vite. J'ai l'impression de ne pas avoir fait tout le tour. Mais en tout cas, quels sont tes projets? Et puis, qu'est-ce qui va découler, en fait, de tes recherches en termes de cadre? Est-ce que tu es dans le travail sur une sorte de référentiel de compétences de l'innovation pédagogique?
L'essai doctoral que je vais déposer là incessamment ce mois-ci là va tout présenter ça un peu justement de toutes ces postures là. Je vais probablement regarder effectivement là avec d'avoir là l'Association québécoise de pédagogie collégiale ou peut-être je vais me trouver un diffuseur en tout cas là ou autre là pour j'aimerais bien proposer quelque chose qui ressemble à un référentiel de compétences pour formaliser quelque chose qui est pas formalisé finalement dans le milieu de l'éducation. Parce que, parenthèse, il y a des référentiels de compétences en innovation et même pédagogique ailleurs. je me semble, j'en ai vu, moi, quand j'ai fait mes recherches en France, par exemple. Il y en a dans les milieux professionnels, même, des références de compétences en innovation, mais il y en a pas dans le milieu collégial. Donc, j'aimerais ça mettre ça en œuvre. Là, j'ai déjà fait une petite infographie, là, que je vais essayer de rendre peut-être disponible. Peut-être qu'Éducative voudra la... la diffuser par la même occasion.
Avec plaisir.
Sinon, c'est ça. Il y a mon essai. Je vais essayer de faire une annexe qui serait un peu un guide plus pour les professionnels, plus synthétique, là, parce que un essai c'est long à lire. Donc voilà, c'est un peu ce qui est en chemin, là, parce que c'est certain que moi, je mène en ce moment un projet d'innovation pédagogique qui a pas de rapport avec mon doctorat professionnel. Puis je sais déjà que je vais continuer à emmener parce que j'adore ça. En fait, là, je trouve ça très stimulant. Donc c'est certain je vais continuer dans cette voie-là.
Je voulais te remercier et puis pourquoi pas un deuxième numéro où on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet et parler des compétences précises, pourquoi pas. Donc merci beaucoup et puis je te souhaite bon courage pour la suite.
Et merci beaucoup, Florence.